beaucoup du coup pour cette chronique sur ce compte. Donc La France Moche, c'était le sujet qu'on voulait aborder cette semaine et on a un invité qui va nous rejoindre. C'est parti pour l'invité actu. Et donc, nous a rejoint sur ce plateau Jean-Laurent Castelli. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Laurent, tu es journaliste, tu es essayiste, tu es le co-auteur du livre La France sous nos yeux, que tu as publié avec Jérôme Fouquet l'an dernier, qui a été prix du livre économique, prix du livre d'économie 2021. Et c'est un livre dans lequel vous décrivez, entre autres, les mutations de cette France-là, d'une France des ronds-points, comme on dit vulgairement. Tu décrirais ça comment ?
Oui, parce que le sous-titre du livre, donc le livre s'intitule « La France sous nos yeux, économie, paysage, nouveau mode de vie ». Et c'est vrai que la notion de paysage qu'on a préférée à celle de territoire, qui est un petit peu trop techno, même si elle est quand même assez à la mode, elle décrit justement cette ambition de parler du décor, du cadre dans lequel on vit. Et c'est ce qu'on appelle les paysages. Et je dirais qu'il y a aujourd'hui un paysage de la France moche, de la France contemporaine, qui est constitué effectivement des fameux ronds-points, on y reviendra parce que le rond-point c'est un peu le carbone 14 de la France moche et on sait que c'est on en a produit dans les années 80 à 2000, c'est vraiment le cœur de cet urbanisme là. Pourquoi les ronds-points sont importants? Parce que ce sont eux qui connectent en fait les nouveaux quartiers des villes. Vincent a parlé de Cergy et depuis Cergy il y a eu tout un depuis ces villes nouvelles,
c'est des villes nouvelles, mais
qui étaient quand même assez bien, enfin, elles étaient conçues de manière assez, cadrée par l'État. On avait décidé qu'il y aurait des centres alternatifs à Paris, notamment tout autour. Il y avait Cergy, il y avait Melun. Melun, ouais. Voilà, il y en avait quelques-unes comme ça.
Surtout, c'est un zonage territorial autour des zones d'activité, zones commerciales.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Il faudrait que tu te rapproches le micro de ta bouche, s'il te plaît.
Ou l'inverse. Ah,
ouais, c'est mieux comme ça.
Vas-y, ouais. Nickel.
Et donc, il y a cette France moche qui est une France plutôt de la planification, on va dire, des années d'après-guerre. Et puis, il y a la France moche de Télérama, dont on a vu la couverture tout à l'heure. C'est un peu ce magazine qui a lancé toutes les hostilités contre la France moche, qui a inventé l'expression dans ce dossier de une qui date d'une dizaine d'années, qui est paru, je crois, en 2010 ou 2011. Et il faut savoir que c'est aujourd'hui encore, je crois, un des articles les plus lus de l'histoire du site de Télérama.
Ah, c'est intéressant ça.
Oui, donc quand j'ai vu, parce que moi, dès qu'il y a quelque chose sur la France moche, les gens m'envoient des messages directement. Ping. Donc j'étais au courant de l'existence de ce compte Twitter en deux secondes, parce que cinq personnes m'avaient envoyé un DM.
Comment tu vis ?
Les lecteurs de Télérama, c'est... Ouais.
Voilà, et donc il y a eu, en fait, moi ça m'a pas du tout surpris. Je me suis dit quoi, 67 000 followers, c'est tout. Je m'attendais à beaucoup plus parce qu'on sait que c'est un sujet, voilà, très très tendu et très passionnel.
Les filles, est-ce que vous le connaissiez vous ce compte Twitter?
Pas du tout. Mais non, moi du coup j'ai une question pour toi, pour vous. Je sais pas si on peut se tutoyer peut-être.
Ah oui.
Comment t'expliques justement le succès, bon, relatif du coup, 67 000 followers. Tu dis que c'est pas beaucoup, mais il en a pris 50 000 en quelques jours, je crois, un truc comme ça. Et surtout les réactions épidermiques autour, qu'elles soient positives ou négative, enfin, on sent que c'est un sujet qui tient à cœur quand même.
Ouais, ben c'est ce que je disais, c'est un sujet très passionnel parce que en fait en France les gens sont très attachés, à la gastronomie et puis à leur patrimoine architectural, historique, et c'est vrai que, alors, ce qui est vachement intéressant, on a vu la couve de Télérama et celle du Figaro Magazine plus récente qui en a remis une couche sur la France moche. Donc en fait, il y a une manière de droite et une manière de gauche de critiquer la France moche. En fait, si je résume...
J'allais te demander, c'est de droite ou de gauche de la France moche? Donc c'est ta manière à toi d'y répondre. Vas-y, dis-moi.
La France moche, on ne sait pas, mais en tout cas, ne pas aimer la France moche, c'est de droite et de gauche.
Alors dis-nous, c'est quoi la différence entre les deux manières de ne pas aimer la France moche?
Il y a deux manières de ne pas aimer la France moche. Il y a la manière, donc Télérama, qui était plutôt... en fait, c'est une vieille tradition marxiste qui consiste à dire, de géographie marxiste qui consiste à dire, en fait, la mocheté... Les paysages moches, c'est l'architecture, on pourrait dire du libéralisme, quoi, du capitalisme. Voilà, c'est les parce que c'est les centres commerciaux, les zones logistiques,
le consumérisme. Voilà,
exactement. Okay. C'est le rêve américain projeté sur la carte de France. Mm-hmm. C'est ça qui a rendu la France moche. Et puis à droite, ça va plutôt être l'État et Anne Hidalgo, quoi. En gros, voilà. le pays. Quoi.
Ça va être ça cache Paris.
C'est ça cache Paris. C'est ça. C'est la manière de droite de critiquer la mocheté. Ok,
qui va plutôt être attaché au patrimoine plus ancien, à la préservation du patrimoine historique, parisien
ou autre,
ou au clocher, par exemple, voilà, des villages français. Et puis, à gauche, ça va plutôt voilà, être, je pense, une critique d'un certain urbanisme, en fait, plutôt du privé, en fait, qui a été laissé, quand on a laissé libre cours, quelque part, aux promoteurs et puis au marché, tout simplement, pour construire cette France. En fait, il y a un peu, dans la France moche, il y a trois grandes dimensions. Il y a le logement, donc c'est plutôt les HLM, les grands ensembles, et puis après, les lotissements pavillonnaires. Il y a tout ce qui est consommation, donc là c'est plutôt parc de loisirs, centres commerciaux, zones d'activité commerciale, etc. Et puis il y a les bureaux, les zones d'activité tertiaire, et ce qui permet d'aller des uns aux autres, c'est-à-dire les routes, les rocades, les ronds-points, voilà tout ce qui fait un peu la connexion entre les France moches, quoi.
Les filles, est-ce que voir les photos là qu'on a vues tout à l'heure, est-ce que ça vous a rappelé des souvenirs de là où vous venez, ou alors des trucs de parce que j'ai l'impression que ça parle à tous les Français, ces photos de la France moche. On les connaît tous, ces ronds-points, ces zones commerciales décrépites, t'as même des noms d'enseignes qui peuvent devenir très rapidement la foire fouille, etc. Tu vois très bien à quoi ça ressemble et l'imaginaire auquel ça renvoie, y compris l'imaginaire esthétique. Je ne t'ai pas trop posé la question avant de savoir si c'était beau ou moche, mais du coup, ça me fait marrer ce compte. Claire ?
Ouais, bah moi j'ai grandi dans le 91, hein. Morsang-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, où il y a le premier carrefour en 1962, oui. La Croix-Blanche, tout ça, avec des voitures de partout. Enfin, donc oui,
D'accord, okay.
je vois très bien. Je peux poser une question, du coup,
bien sûr,
je
pense que la question une.
En fait, en t'écoutant, je me disais oui, il y a ça cache Paris, quoi, la manière de droite de désigner la mocheté. Et puis, oui, il y a la France moche qui est critiquée du côté gauche. Et je me disais aussi, en regardant notamment les photos de la France moche, est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle manière de caractériser la France moche venant de la gauche pour parler des lieux où, en fait... il y a un délaissement de l'État. C'est pas juste les centres commerciaux, en fait. Là, on a vu plein de bâtiments qui sont des services publics délabrés. Donc, il y a aussi ce truc de... En fait, à un moment, l'État a été très volontariste dans sa manière de construire. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu analyses et que tu vois
Moi, je vais pas être d'accord avec toi là-dessus. Okay. Mais non, enfin, moi, ça m'intéresse. C'est aussi une discussion que je pense qui peut être intéressante là-dessus, justement sur ce côté service public, parce que je suis le premier. C'est un peu ce qu'on appelle les architectures de la CAF ou du bâtiment de la Sécu. Mm-hmm. C'est vraiment le truc moche au possible. Par essence, c'est dégueulasse un bâtiment de la Sécu, vraiment. Mais il se trouve que comme j'ai bossé par le passé dans des collectivités locales, j'ai aussi compris pourquoi toute une architecture d'une certaine époque était aussi dégueulasse. C'est parce que ça a été construit dans des moments où il y a eu un très très fort investissement de l'État pour la création justement de ces services publics, les écoles, les bâtiments sportifs, les bâtiments culturels, et ça donnait du coup ces MJC, ces centres culturels et tout, avec des matériaux pas du tout nobles et tout, mais aussi parce que c'était pas cher et parce que ça répondait du coup à une volonté politique très forte. Et donc c'est rétrospectivement, avec ces connaissances que j'ai depuis, que moi je trouve qu'il y a du panache et de la noblesse à avoir ces espèces de services publics décrépits au possible, parce qu'on n'a pas le budget pour les nettoyer, faire les ravalements de passage chaque année, parce qu'on préfère mettre le budget dans autre chose, dans les animateurs
mais ça,
sportifs
c'est,
et culturels
c'est
et tout.
Une question de, on, c'est une en question fait, d'affectation. C'est un choix politique de ne pas rénover les sapeurs-pompiers,
mais les
sapeurs-pompiers. Il y a deux questions. C'est-à-dire qu'il y a celle de des goûts. Hein, et c'est vrai qu'en matière architecturale, les goûts, typiquement le brutalisme dont Vincent a montré des exemples assez emblématiques. Moi, j'aime beaucoup. C'est revenu très fortement à la mode ces dernières années. Il y a beaucoup de clips, par exemple, de musique avec des bâtiments brutalistes. Par exemple, il y a le centre de la danse à Pantin qui est souvent photographié ou filmé. Donc, il y a en Angleterre aussi, il y a tout un patrimoine brutaliste qui fait l'objet de comptes Twitter, Instagram et tout qui reviennent dessus. Donc, il y a des fans d'architecture brutaliste. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que du brutalisme dégradé, mal entretenu, c'est très, très moche. Mais ouais. si c'est bien filmé dans les bonnes conditions, ça peut être pas mal. Après, il y a aussi la question de la dégradation de tout cet environnement périphérique. C'est ce qu'on a vu un peu avec la crise des Gilets jaunes. C'est que finalement, pourquoi les gens se mettaient autour des ronds-points ou proches des péages ? Parce que c'était les lieux de vie assez éloignés des métropoles ou des villes moyennes. Et c'était des endroits dans lesquels, finalement, la crise, on pourrait dire une crise spatiale, rencontrait une crise sociale. Voilà, il y avait des gens qui se sentaient un peu relégués parce qu'ils étaient éloignés des centres. Et aussi dans des environnements qui sont pas objectivement moches, mais qui sont qui ressemblent pas à l'idée qu'on se fait du patrimoine français emblématique. Et dans le livre avec Jérôme Fourquet, puisque tu en parlais, on a réédité une édition de poche en septembre dernier. Et on a fait une post-face post-électorale, parce qu'on a pris en compte la séquence présidentielle et législative. Et on s'est amusé à, notamment à calculer le vote de, pour Marine Le Pen et Macron à mesure qu'on s'éloigne des littoraux, en fait. Ouais. Et on s'est rendu compte sur le littoral atlantique que ça marchait très très bien, dans le sens où
plus
de même...
Plus tu t'éloignes de la mer, bah, voilà, plus ça devine, vote Le Pen.
Ouais, exactement. Voilà. De même que plus on s'éloigne des métropoles, plus ça vote Le Pen, plus on s'éloigne des littoraux. Alors ça marche pas forcément sur la Méditerranée, parce qu'il y a un vote FN ancien assez ancré, mais par contre, sur le littoral atlantique, ça marche assez bien. Pourquoi ? Parce que les endroits les plus désirables, sur le plan, les plus attractifs sur le plan immobilier, les plus chers, c'est aussi les endroits les plus beaux. On a tous un peu envie d'habiter ou d'avoir une résidence secondaire. Et donc, ça pour dire aussi qu'il y a une incidence politique. Il y a une France qui est plutôt désirable, qui est plutôt belle, mais oui, on va dire, et une qui est plus dans l'ombre, quoi. Voilà.
C'est que du coup, tu as aussi une division en classe sociale par rapport au caractère esthétique de la zone dans laquelle tu as les moyens d'habiter. Et que du coup, ça rend... Est-ce qu'il y a pas une forme... Ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une forme de mépris de classe dans le fait de juger moche une France quand on est un lecteur du... Enfin, c'est facile quand t'es lecteur abonné à Télérama dans ton beau centre-ville.
Bah, là, on refait...
Quand même, c'est vachement dégueulasse, ce rond-point, bah ouais, t'habites pas à côté.
On refait 10 ans après exactement le débat qu'il y a eu quand la couve de Télérama est parue.
Ouais,
il y a eu vraiment le débat dans ces termes, c'est-à-dire qu'on disait, oh là là, mais... Enfin, il y a beaucoup de gens qui étaient d'accord pour dire qu'objectivement, bah ouais, c'est très moche. C'est dans l'Essonne, d'ailleurs, cette photo. Et puis, une partie de la critique, d'ailleurs, aussi chez les intellos, a dit non, non, mais c'est un jugement de classe, c'est un truc élitiste de centre-ville de dire oh là là, vous habitez dans des environnements dégueulasses.
La question de la définition de la France moche, tu peux nous en donner une ? Parce que c'est archi subjectif, en fait, et c'est une question d'époque. Parce que là, par exemple, sur le compte Twitter qu'on voyait tout à l'heure, et Vincent a passé à montrer quelques exemples, il y a notamment ce complexe immobilier à Créteil, avec, qui a une forme de chou, je crois que ça s'appelle
les choux,
considéré à l'époque de sa création comme une prouesse architecturale et comme quelque chose de vraiment beau, et qui aujourd'hui est considéré comme étant moche. Enfin, c'est quand même assez... c'est aussi une question d'époque, peut-être, une question... Enfin, quelle est la définition de la France moche ?
Bah, alors effectivement, on fait un peu de l'archéologie de la France moche en ce moment, c'est-à-dire qu'en fait on juge avec nos yeux contemporains une architecture qui dans le passé a été l'architecture en fait moderniste ou fonctionnaliste, parfois on l'appelle comme ça, qui était une architecture très liée aux utopies politiques de l'époque.
Ah, bien sûr.
Le Corbusier, etc. Voilà, on voulait loger les gens autrement avec de la lumière, de l'espace. Et tout.
Typiquement c'est une piscine tournesol et ça c'était un programme d'équipement à pas cher pour les mairies pour avoir un vrai programme de natation, notamment pour les populations les plus pauvres. Donc moi je trouve ça chouette, une piscine tour de sol.
Alors ça je dirais, moi j'aime bien, mais ça c'est la France moche un peu à la manière ex-URSS. Voilà, c'est le côté planificateur de la France.
Ah oui, parce qu'en plus c'était standardisé, c'est ignoble. Ouais, oui. C'était le même modèle de piscine partout en France.
C'est un peu comme les villes nouvelles en fait. Voilà, c'est la manière plutôt planificatrice. Et puis il y a cette France moche, encore une fois, plutôt... lié au libéralisme aux années 80-2000, qui est la France américanisée, les grands centres commerciaux, la voiture individuelle, etc.
Ok, je vois.
Et nous, on a un mélange des deux.
Définition, en fait.
Je dirais qu'il y a plusieurs France moches, voilà.
Claire, tu avais une question aussi sur sur ce que ça dit des mutations des modes d'habitat vis-à-vis du changement climatique et de la volonté de retrouver. C'est quand on préparait l'émission, tu m'avais parlé de ça.
Ouais. En fait, enfin, pour moi aussi, le fait que on est dans un espèce de moment de bascule où, en fait, le modèle idéal pavillon, bagnole est en train de mourir.
Et en train de disparaître, oui.
Parce qu'on ne peut plus être dans une civilisation où la voiture prend cette place-là. Du coup, on a des politiques, les ZFE, tout ça, qui en fait, rendent compliqué l'évolution du prix de l'énergie, qui rendent compliqué le fait d'avoir une voiture, ce qui fait que la France moche, elle est ressentie comme moche aussi parce qu'elle est subie, en fait, quelque part. Et est-ce que, du coup, dans ton travail, tu perçois ça aussi d'aspiration à un autre mode d'habitat relié à la question de l'environnement, du climat et de globalement, cette nécessité de sortir de la civilisation consumériste, des grands centres commerciaux, c'est présent. Et est-ce que c'est... présent dans toutes les classes sociales aussi, et de quelle manière ?
Alors, très bonne question. Il y a une loi qui est entrée en vigueur en 2021, qui s'appelle la loi Climat et Résilience, dans laquelle il y a, en fait, c'est un peu la loi cadre de toute la manière dont la France doit mettre en action la transition écologique. Donc, il y a plein de choses sur, je sais pas, les emballages plastiques, mais il y a aussi beaucoup de mesures sur les territoires, l'aménagement du territoire, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut plus faire. dans ce qu'on peut plus faire, il y a prendre l'avion quand il y a une alternative avec le train en moins de 2h30, exactement. Il y a la question de la fin de l'artificialisation des sols, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus construire de la France moche, par exemple pavillonnaire, ou alors on pourra faire des bouts de... On pourra artificialiser si on compense ailleurs, on rend à la nature quelque part une partie de ce qu'on a urbanisé. Et puis, on ne pourra plus non plus créer de grands centres commerciaux. Donc, en fait, cette loi, c'est un peu le cercueil de la France moche, telle qu'on l'a connue. Et je pense que c'est pour ça que ces sujets-là recommencent à avoir une actualité médiatique. Parce que, en fait, on est en train de se rendre compte rétrospectivement que c'est les dernières années où on va pouvoir, où ceux qui veulent continuer à construire ce modèle-là vont avoir les mains libres pour le faire. En fait, c'est quasiment terminé parce qu'on est dans un moment où on se questionne effectivement sur la manière dont on se déplace, la manière dont on consomme, dont on habite, etc. Tout ça, c'est la transition écologique qui l'a mise à l'ordre du jour. Il y a quelques années, tout le monde s'en foutait, clairement. Et pour répondre à ta question, il y a une partie de la population qui est très conscientisée sur ces problèmes, qui a conscience de leur existence et qui est d'accord pour shifter, pour changer de modèle. Mais tu as quand même une majorité qui est plutôt soit indifférente, soit en résistance. C'est celle à qui on dit, par exemple, pour les ZFE, donc c'est les zones à faible émission.
Dans lesquelles tu ne peux pas... Dans lesquelles on ne pourra plus rentrer avec son SUV, pour faire très simple.
Non, c'est avec une épave que tu ne peux pas rentrer.
Ah oui, c'est avec une épave.
Si c'est un SUV hybride, c'est bon. Voilà.
Ça passe.
Grâce aux amendements du groupe Les Républicains au Sénat, évidemment.
Ton SUV Tesla, genre.
SUV électrique passe, mais pas la
Peugeot 206.
C'est exactement...
Pas l'épave au diesel. Donc c'est vrai qu'il y a une injustice. Évidemment, il y a une dimension très sociale, puisqu'on dit aux gens qui ont peu de moyens, d'ailleurs en banlieue ou dans les grandes périphéries, notamment les gens qui ont des diesels, qu'en fait, ils ne pourront pas rentrer dans les centres-villes. Et quelque part, si je caricature un peu, qu'ils ne pourront plus non plus s'en éloigner, puisqu'on ne pourra plus construire de plus en plus loin, puisque ce ne sera pas écologiquement correct. Donc c'est vrai que là, il y a un risque aussi de se mettre à dos une partie de la population avec les nouvelles réglementations climatiques.
On arrive à la fin. C'est bon, rassurez-vous, le chat, on lui a apporté de l'eau, tout va bien. Personne n'est décédé, personne n'a été blessé dans la réalisation de cette émission. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai vu aussi dans le chat des gens qui parlaient de Le Corbusier, aussi l'architecture sur dalle, etc. Moi, ayant grandi pas très loin de la Défense, je fais partie de ceux qui aimeraient bien cramer un jour Le Corbusier, symboliquement le tuer, parce que j'en peux plus. En plus, il paraît qu'il est encore célébré aujourd'hui dans les écoles d'urbanisme et d'architecture.
Il est encore enseigné, tout à fait.
Et ça me rend...
Il a encore beaucoup de fans, d'ailleurs.
Et oui, il y a encore beaucoup de fans. C'est principe, comment reconnaître un fan de Le Corbusier? Il n'habite pas dans un quartier Le Corbusier, ni dans un immeuble Le Corbusier. C'est la base de la définition. Mais vraiment, tu sais, le bouquin de la FNAC Le Corbusier, il est que dans les appartements haussmanniens des lecteurs de Télérama. Jamais chez les gens qui habitent dans un coin Le Corbusier. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Jean-Laurent?
Tu veux dire dans la vraie vie ou sur les réseaux?
Parce que là, les gens de Backseat t'ont entendu, t'ont trouvé passionnant. Et où est-ce qu'on peut le retrouver? Donc les livres
Twitter, Twitter principalement, et les livres en librairie, non? C'est comme ça.
En librairie, donc
sur un site qu'on mentionne pas quand on parle de e-commerce, non.
Qui possède par ailleurs Twitch. Mais plutôt en librairie, c'est mieux. C'est votre libraire de quartier, c'est quand même vachement mieux. La France sous nos yeux, ce livre que tu as publié en 2021, et l'autre livre que tu as écrit, c'était No Fake, contre-histoire de notre quête d'authenticité. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. Toi, Jean-Laurent Castelli. C'est la fin de cette actualité. Merci beaucoup à toi.